MCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous savez, on a commencé une semaine au cours de laquelle on ne parle que de la dépression. C'est vrai, on est en train de finir la semaine. Ce n'est pas comme si on a épuisé tout le sujet de la dépression. Mais aujourd'hui, je voulais absolument qu'on parle de sortir de la dépression dans la vie de famille. Il y a une sorte de dépression ménagère qui est liée au fait non pas d'aller au travail, non pas de subir une culpabilité, non pas de l'épuisement physique, mais surtout de la vie de famille. Il y a une dépression de la mère, il y a une dépression du père, il y a aussi une dépression de l'enfant ou des enfants. La vie de famille peut être un cadre dans lequel on subit tellement de pression émotionnelle au point de tomber dans la dépression. Alors, comment ça se passe et surtout, comment la Bible nous aide à sortir de cela? Let's teach. Grandissons ensemble. On dit souvent que dans un contexte familial, il y a trois facteurs déclencheurs, trois choses qui causent souvent la dépression dans le milieu familial. La première des choses, ce sont les responsabilités financières. C'est-à-dire, l'argent, mon ami, l'argent. On a des factures à payer. Des frais scolaires et académiques à payer. Il faut manger, il faut s'habiller. Les saisons changent, sans oublier les crédits. Les responsabilités financières sont source de beaucoup de dépression dans le milieu familial. La deuxième raison, ce sont les conflits conjugaux. L'homme et la femme. Ah, incompréhension, infidélité, problème avec la belle-famille, la santé de l'un n'arrive pas à bien prendre en charge l'autre. Les conflits conjugaux entre l'homme et la femme dans un couple deviennent source de tellement de dépression. Et en fin de compte, l'environnement familial. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de problème, j'ai pas de conflit. Ce sont les parents qui ont des conflits. J'ai pas de problème de finances. Ce sont les parents qui payent les frais pour moi. Mais je vis dans une maison où déjà l'environnement familial est déprimant. Vivre avec un père ivrogne qui tabasse sa mère, c'est déprimant. Vivre avec une mère hyper autoritaire qui trompe le père à son absence, c'est déprimant. Vivre avec des parents excentrés et colériques qui s'élancent des choses à la maison, c'est déprimant. L'environnement dans lequel l'enfant grandit est déprimant au point de lui apprendre rien d'autre à faire que de copier ses mauvaises façons de faire. Il y a des conséquences de comment vous vous êtes parlé à la maison, vous, papa et maman, comment vous avez exprimé votre vie de couple devant l'enfant. Il y a des conséquences de ça sur ses notes à la fin de l'année, sur ses notes à la fin de trimestre. Un enfant, quel que soit son âge, exposé à de telles choses, peut déprimer. Vous allez vous dire, ah non, c'est un petit garçon, il va déprimer comment? Mais lorsqu'il y a changement des humeurs à cause des pensées récurrentes négatives, au point de lui faire douter à nouveau sur la nature du monde et la nature de soi, ainsi que sur son avenir, ça c'est la définition de Aaron Beck en ce qui concerne la dépression. Cet enfant en train de déprimer. Très chers parents, j'aimerais vous dire que des fois vous trompé. Vous pensez qu'il est trop jeune pour vivre ça. Mais malheureusement, les enfants, même à l'école primaire, peuvent déprimer. Alors, quelles sont les caractéristiques? Comment reconnaître qu'on est en pleine dépression subie, causée plutôt par la vie, l'environnement familial, une dépression ménagère? Comment reconnaître cela? Il semble qu'il y a quelques caractéristiques. Premièrement, on parle souvent de l'isolement émotionnel et physique. Vous voyez que quand quelqu'un commence à subir la dépression dans la famille, il commence à s'isoler. Il est tout le temps dans sa chambre, il est seul. Vous êtes tous là, la famille est là, mais lui, il s'en va, il va rester seul. Pas seulement parce qu'il est introverti, mais il n'arrive plus à vivre cette chose appelée famille. Deuxièmement, conflits familiaux accrus. quand il y a dépression dans la famille, les conflits vont s'augmenter. Quand on est tout le temps en conflit, il y a pas, on passe deux secondes de paix et tout le reste de la journée et de la vie en tout le temps en conflit, ce que quelqu'un déprime. Troisièmement, manque de soin envers les responsabilités familiales. Quand quelqu'un déprime, il ne donne plus sa participation à la vie de la famille. Il ne prend plus soin de ses responsabilités de famille. Quand il déprime, il n'est plus l'homme comme il devait l'être. Il ne prend plus soin de pas. Il n'est plus le papa. Il n'est plus l'homme quand il déprime. Elle n'est plus la maman. Elle n'est plus la femme quand elle déprime. Vous verrez que dans ses responsabilités familiales, il ne sait plus tenir compte de ça. Il déprime. Il est en plein épisode de dépression. Mais il y a baisse de l'affection et de l'intimité. Vous voyez que quand quelqu'un déprime dans le milieu familial, là, vous allez chercher l'affection. Vous allez même avoir l'impression qu'il vous hait, qu'il ne vous aime pas, qu'il n'y a plus d'amour ici, on abandonne. Non, il déprime. Quand quelqu'un déprime, il devient froid dans ses émotions. Il a une baisse totale d'affection. Il n'exprime aucune affection. Vous avez envie de dire, bon, si comme ça, si on ne s'aime pas, arrêtons alors. Il ne veut pas arrêter, mais il ne sait pas montrer qu'il est affectif. Il ne veut pas arrêter, mais il a toute forme d'intimité. Il devient mal à l'aise avec. Il ne veut plus être intime. Pourquoi? Il déprime. Ou alors, vous avez changement d'humeur fréquent. Il fait des hauts et des bas. Un petit moment, tu as l'impression que ça va un peu bien. Et puis, ah non, je ne veux pas. Oh là là. Ou alors, il y a désagrément des activités familiales. Est-ce qu'on ne peut pas aller manger quelque part? Il ne veut pas. Vous êtes allé regarder un film ensemble, ça finira par des problèmes. Il peut même s'élever en plein milieu de ce film. Vous êtes sorti en famille, tout ce qui est activité dite familiale, il déteste ça. Il va trouver un moyen toujours de partir de là. Ou il y a difficultés financières et professionnelles. Quand quelqu'un déprime au niveau familial, vous pouvez voir ça, que ça va affecter ses finances. Ça va affecter même sa vie professionnelle. Le travail subit la dépression qui vient de la maison, autant que la maison subit la dépression qui vient du travail. Et enfin, il y a aussi des symptômes physiques, parce qu'on parle aussi de quelque chose de psychologique. Sachez-le bien qu'il y a aussi une dimension somatique qui arrive. C'est-à-dire que physiquement, le corps réagit. Il y a des problèmes comme des problèmes de tension artérielle, des problèmes des problèmes d'estomac, des trucs comme ça. Ou même juste de douleurs comme ça, où quelqu'un commence à prendre du poids inutilement, ou commence à en perdre, ou commence à avoir des problèmes au niveau des articulations. Mais ce problème-là n'est pas physique, il vient en réalité de ses émotions. Que pouvons-nous dire aujourd'hui, pendant qu'on parle de la dépression qu'on peut vivre dans la famille, dans le couple, à la maison? Voici les quelques choses que je peux partager avec vous, mon frère, ma sœur. Faites connaître vos besoins ensemble à Dieu. Frères et sœurs, si vous avez compris qu'est-ce que c'est que la dépression familiale, vous savez que les facteurs de cette dépression sont premièrement les responsabilités financières, deuxièmement le conflit conjugal et troisièmement l'environnement familial. Alors, vous voulez ne pas vivre la dépression familiale, faites connaître vos besoins ensemble à Dieu. Il y a cette expression qui dit « un couple qui prie ensemble, demeure ensemble, reste ensemble, reste uni ». Frères et sœurs, vous voulez que votre couple, vous ne puissiez pas vivre cette dépression. Vous pouvez voir un mari qui part du travail, mais il est chargé de toutes les demandes que vous lui avez faites le soir. Le matin, quand il part là, il vit, même au travail, il est de temps en temps distrait. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit « avec le même salaire, comment je vais faire ?» Avec tout ce qu'on demande à l'école, on parle de ce travail, cet enfant doit voyager, comment je vais faire? Je vais quand même offrir ça à mon fils, à ma fille, à cet âge. Comment? Il déprime. Pourquoi? Parce que les besoins financiers sont énormes. En rentrant à la maison, on dit, ah, tu rentres comme ça aussi, tu ne m'as même pas amené une fleur. Ah, une fleur encore. Les besoins financiers sont énormes. Quand tu reviens avec son argent, elle revient comme ça, elle se dit, ah, par quoi je vais commencer? Est-ce que je dois m'acheter moi-même une jupe, une robe? Je ne sais même plus me faire belle parce que le peu d'argent que je gagne, c'est comme si je n'en gagnais pas. Tout de suite, ça va là-bas. Mes amis, les besoins financiers peuvent nous engloutir. Voici le secret. Parlez-en à Dieu. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. N'entretenez aucun souci. Est-ce que vous m'avez entendu, frère? Est-ce que vous m'avez entendu, ma sœur? N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec pression sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Dieu permet qu'on fasse pression quand on présente nos requêtes. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection de Christ Jésus. Voyez, votre cœur et vos pensées ne seront pas dans la dépression. Ça sera sous la protection de Jésus. Si vous n'entretenez aucun souci et vous exposez, j'aime bien comment Parole Vivante traduit ça, intercédez avec confiance et sérieux. Mon frère, si vous ne voulez pas vivre la dépression, prenez les problèmes de la famille. Intercédez sérieusement. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision. Voilà le terme, pas pression, précision. Il dit, Jésus-Christ plutôt parle la notion de la pression plutôt plus tard quand il parle du juge et de cette femme, le juge unique et la femme. Mais ici, Paul parle de précision, c'est-à-dire intercéder, présenter vos requêtes avec précision. Ne venez pas en disant, Seigneur, toi-même, tu connais ma famille. Tu sais par quoi nous sommes en train de passer, Seigneur, aide-nous. Non, soyez clair. Dieu, il y a devant ma table un besoin de 16 425 $ et 700 cents. Bon, tu n'es pas obligé d'arriver jusqu'au cents. Mais c'est juste pour dire, sache que tu dois parler avec Dieu librement de ce qu'il y a vraiment. Et ne te cache pas pour prier pour ta famille seulement. De temps en temps, mettez-vous tous ensemble, parlez-en et priez pour ça. C'est ce qui va réduire la pression familiale. De fois, on ressent une pression parce qu'on se dit, c'est moi l'homme. On attend cet argent de moi alors. C'est moi la femme, c'est la seule qui travaille. On attend cet argent de moi. C'est moi l'enfant, c'est moi qui cause ce besoin d'argent. Aujourd'hui, les parents sont en train de souffrir parce qu'ils sont obligés de me payer ces minervales. C'est pourquoi ils sont obligés de me payer ces frais scolaires, ces frais académiques. C'est pour ça qu'ils souffrent. Non. Ramenez ça dans une prière collective. Ensemble, priez. Et vous rendrez compte que personne ne se sentira encore responsable, ne vivra encore cette culpabilité. Parce qu'au fond, on se dit, on s'en remet au Seigneur. C'est Dieu qui gère. Deuxième chose que je peux vous dire, au sujet de la pression que l'on subit et que l'on vit au milieu familial, protégez votre famille de la vanité. Je répète, protégez votre famille de la vanité. Frère, sœur, papa, maman, mon frère, je vous en supplie. Quelquefois, on ne subit pas la pression dans la famille. On ne vit pas dans la dépression dans la famille à cause des sujets ou des réalités qui en valent la peine. Je ne voudrais que personne ne vive sous une dépression. Mais il y a des sujets où vous regardez, vous dites, je comprends pourquoi il est déprimé. Il y avait tellement de pression. Mais quelquefois, dans la famille, on est tellement pressé par quelque chose qui n'est même pas utile. Nous vivons dans une vie et dans un monde où la vanité est exposée comme si elle était une nécessité. Les désirs sont exposés comme s'ils étaient des besoins. Protégez votre famille de la vanité. Sinon, vous allez vous mettre la corde au cou pour rien. Il ne vous faut pas la dernière marque de voiture qui roule sans l'aide de la main d'homme qui te conduit pendant que tu dors. Il te faut un besoin, il te faut un moyen de déplacement. Il ne te faut pas le nouveau téléphone qui tourne comme ça, qui s'ouvre en deux. Non, il te faut un moyen de communication utile et intelligent. Il ne te faut pas tous les derniers cris, tous les derniers besoins du monde. Frère, éloignez-vous de la vanité, ça va amener de la dépression dans la famille. Vous voyez les ados déprimés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent ce que tous les autres ados ont. Je vous en supplie. Faites de votre mieux. Apprendre à votre femme, à votre mari, à vos enfants, qu'il y a des choses qui sont inutiles, qui ne font que passer et qui ne peuvent pas être l'objet de toute votre attention. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10. Il est écrit. C'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Paul précise, contentez-vous de ce que vous avez. Il y a quand même un minimum. On mange, on boit, on vit, on s'habille. Gloire à Dieu. Bénissons Dieu pour ce que nous avons. Mais si on commence à être passionné, on a cet amour du bien matériel, amour de l'argent. On veut ça à tout prix. Et j'aime bien comment la Bible fait ce jeu de mots. Il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Pas l'argent, l'amour de l'argent. Et quelques-uns, en étant possédés, j'aime comment il précède ça, il dit que l'amour de l'argent, c'est comme si il y a des gens qui sont possédés de démons, il y a des gens qui sont possédés d'amour d'argent. C'est-à-dire que l'amour d'argent est tellement à l'intérieur de lui. Mon frère, ma sœur, dans votre famille, vous ne devez pas vivre dans l'amour de l'argent. Le besoin de l'argent existe, gagner de l'argent existe pour pouvoir être utile et faire avancer le royaume et vivre la mission qu'on a sur la terre. Mais protégez votre famille de la vanité. Apprenez vos enfants, votre mari, votre femme, apprenez à discuter sur la simplicité de votre famille. Vous vous protégerez des dépressions inutiles. Vous vous protégerez des pressions qui viennent jusqu'à causer de la dépression inutile. Contentez-vous de ce que vous avez et vous vivrez en paix. Troisièmement, appréciez les contributions de chaque membre. Ce qui vous garde loin de la dépression dans la famille, c'est la valorisation de chaque membre. Quand vous savez apprécier ce que le mari est, ce que la femme est, ce que les enfants sont, ce que les parents sont, ça vous permet de vivre équilibré. Imaginez un homme qui est venu du travail, qui a travaillé plus de 10 heures, 12 heures même pour certaines personnes, certains même 15 heures. Il revient à la maison. C'est à peine qu'il arrive qu'on lui dit « Ah ben, justement, on t'attendait pour que tu sortes la poubelle. » Il n'en met pas, il sort la poubelle. Il la ramène. Il revient. Il entre dans la maison, on dit « Hey, tiens, tu sais, mon chéri, on ne sait pas regarder la télé depuis un moment. Pendant que je te fais à manger, est-ce que tu peux pas... » C'est même pas encore fait à manger, en plus. « Est-ce que tu peux pas arranger la télé ?» Le voilà qui dépièce tout, qui arrange. Tant qu'il vient manger, il dit « Ah, vraiment désolé, le riz en question, il est un peu dur, je ne l'ai pas bien chauffé. » Il mange. Regardez comment vous le traitez. Et demain, très tôt le matin, il dit « Écoute, n'oublie pas de ramener encore... la pâte, parce que je ne suis pas fort, je ne veux pas bien préparer. » À aucun moment on s'est arrêté pour voir ce héros qui est revenu à la maison et qui s'est plaint de rien et qui a travaillé jusqu'à la dernière minute. En aucun moment on s'est arrêté pour apprécier ce héros qui n'a fait rien d'autre de sa vie que de travailler où qu'il aille. L'homme ne travaille pas pour qu'on lui donne à manger. La compassion, ce n'est pas la nourriture. Il n'y a rien qui va calmer son être intérieur comme l'appréciation par des paroles. Ce n'est pas la nourriture, c'est la manière de la servir. C'est l'effort qu'on y met. Il sent qu'à un moment donné, dans ma vie, c'est à mon tour de consommer. C'est à mon tour de rester comme un roi. C'est à mon tour d'être servi. Apprécier les efforts de chacun. Il en va de même. La femme, la voilà, soit elle est venue du boulot. Prenons un exemple typique. Elle est à la maison. Elle était là. C'est elle qui a préparé pour que tout le monde parte. C'est réveillant avant tout le monde, réveillant les enfants, les lavant et mettant du pain à la table et faisant des bols pour chacun. Tout le monde est parti. Elle est restée à la maison, la rendre propre, la préparer. C'est à peine qu'elle essaie d'aller se reposer, que le bébé s'est réveillé. qu'il faut aller prendre soin du bébé. Se rend compte que les gens vont revenir bientôt, elle essaie de se laver, préparer la maison, faire quelque chose à manger à la va-vite. Et voilà que quand on arrive, c'est où se trouve ma nourriture? Mais c'est pas bien cuit. Ah, j'ai vu, mais il y a un peu de poussière ici à la maison. En aucun moment on s'arrête pour se dire, cette héroïne à multitâche, qui sait faire plusieurs choses en même temps, pendant qu'elle appelait au téléphone à l'école, elle était en train de griller quelque chose. On ne s'arrête pas pour apprécier cette maman. On ne s'arrête pas pour apprécier cette dame, cette femme, cette sœur. C'est là qu'on cause la dépression dans la vie de quelqu'un. Mes amis, vous ne voulez pas qu'il y ait des dépressions dans la famille. Appréciez ce que chacun est et le rôle qu'il joue. Cet enfant qui est sorti tôt le matin, 6 heures, pour aller attraper le bus, pour aller à l'école. Il arrive à l'école, maths, cours de langue, géographie. À un moment, il tente de dormir parce qu'il s'était réveillé trop tôt, parce que l'école se trouve trop loin. Il s'est réveillé trop tôt, il a dû se laver trop tôt, de l'eau froide. À un moment donné, naturellement, il a un peu de sommeil. Le prof lui dit, « Hey, toi, si tu as sommeil, lève-toi, mets-toi debout. » Il se met debout, il est obligé de forcer son corps à ne pas dormir. Et quand c'est le temps de la récréation, il n'a pas sommeil, il n'arrive plus à dormir. Il fait ses maths, il fait tous ses devoirs, il rentre à la maison fatigué. Dès qu'il arrive, on dit, « Mais tu sais, tu avais laissé ta maison, tu avais laissé ta chambre sale, il faut que tu arranges ça. » Après, quand il arrange sa chambre, à peine qu'on voit sur son téléphone, tu es tout le temps sur ton téléphone. « Donne-moi ça. » Personne ne lui demande comment s'est passée la journée. « Montre-moi ce que tu as fait. » « Ouh, là, tu n'as pas réussi, ça ira mieux demain. Tu sais, je peux t'aider pour qu'on se prépare pour ça. Je suis fier de toi. Je suis heureux d'avoir un enfant comme toi qui fournit des efforts pour devenir meilleur. » Ça ne coûte rien. Appréciez les efforts et les contributions de chaque personne. Regardez comment Paul parle du fait de la contribution de chacun dans un corps. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 21 à 26. 1 Corinthiens 12, 21 à 26. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé les corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tout le membre se réjouisse avec lui. C'est ça le principe de toute famille. Si un membre souffre, tout le monde souffre avec lui. Si un membre est honoré, tout le monde est honoré avec lui. Quelqu'un ne peut pas être en train de faire des efforts supplémentaires dans la famille et ses efforts ne pas être reconnus. Quand il travaille dur, la moindre des choses, c'est de venir voir, hey, « Ça va, Madeleine, dans ta chambre, ça va? Tu peux pas les examens? Ouh, c'est dur. Écoute, je t'ai fait un thé, ça te va? Tu veux du chocolat, un truc chaud? Je ne peux pas étudier à ta place, mais je peux au moins trouver un moyen de te soulager. Et tu sais que quand j'étudie dur, mes parents m'encouragent et font de leur mieux pour que je continue à finir ma tâche. » Juste apprécier les contributions de chacun. Et enfin, vous voulez éviter la dépression dans la famille. Remplissez votre mission d'amour. Remplissez plutôt votre maison d'amour et de pardon. Si votre maison doit être remplie de quelque chose qui peut vous sauver de la dépression, sauver l'homme, sauver la femme, sauver les enfants, vous devez remplir votre maison d'amour et de pardon. Colossiens chapitre 3, versets 13 à 15 dit ceci. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et qui est la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Paul leur parle du fait de se supporter, Si quelqu'un s'est plaint de quelque chose à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et il ajoute, par-dessus tout, soyez revêtus de l'amour. Mes amis, toute famille tient que parce qu'on a cette chose qu'on appelle le pardon, qui fait que quand quelque chose a été brisé, on répare. Parce qu'il y a cette chose qu'on appelle l'amour, qui fait qu'on est aveugle des erreurs des uns et des autres. Quand quelqu'un se sent aimé, ça lui donne la force de passer par la période de dépression et d'en sortir fort. On a passé toute une semaine. Je ne sais pas d'où vient votre dépression. Qu'est-ce qui cause ça? Je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est la culpabilité? Est-ce que c'est l'épuisement physique? Vous avez compris ce que veut dire dépression. Et vous avez vu les solutions divines en cours de route. Et la manière de Dieu de traiter votre famille, de vous traiter vous-même, pour que vous ne puissiez pas rentrer dans cette dépression. Alors maintenant, laissez-moi prier avec vous. Père de toute bonté, pour cette semaine où on a parlé de dépression, où on a pris conscience de la pression qui entoure notre monde, mais par cette même semaine, nous avons aussi pris conscience de ta grâce et de ta bonté sur nous, de l'apport du Saint-Esprit et de son pouvoir à calmer les tempêtes à l'intérieur de nos cœurs. Je viens te prier pour mon frère et ma sœur qui s'est rendu compte qu'il est dépressif en ce moment, qu'il est en train d'être déprimé. Je te prie que le courage d'aller chercher de l'aide ne puisse pas lui manquer et qu'il frappe à la bonne porte, qu'il parle à la bonne personne. Et s'il y a des choses à régler en famille, que ça soit réglé avec amour. Et je prie encore au Dieu de grâce, pendant qu'on m'entend ou qu'on me voit, je prie, Père, que le Saint-Esprit qui pense les blessures à l'intérieur vienne amener paix et calme. Silence, vent, silence, taisez-vous. Jésus règne dans ce cœur, Jésus règne dans cette famille, Jésus règne dans la vie de mon frère et de ma sœur. Tais-toi, Jésus est dans la barque et il règne. Je prie que cette semaine soit une semaine de restauration, qu'on travaille, qu'on s'étonne de tes humeurs, qu'on se dise qu'est-ce qui s'est passé. Témoigne que Jésus t'a visité, qu'à la maison ton mari s'étonne, ta femme s'étonne, que même toi qui es à côté de quelqu'un qui déprime, il soit étonné par ton attitude parce que tu as été transformé et enseigné. Bénédiction, bénédiction sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cette semaine a été merveilleuse. Le Seigneur nous a libérés de la dépression. Eh bien, il est temps de communiquer cette joie autour de nous et de dire à tout le monde que Jésus est puissant, capable de libérer de toute dépression. Let's teach. Grandissons ensemble.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.